Après une demi-heure d'agitation, une heure tout au plus, la voiture qui s'était lancée pour un long trajet devient calme. D'une certaine manière, elle s'économise. L'équipage faisant corps avec l'habitacle économise son énergie. C'est ainsi que le temps s'écrase sur tout le monde et que la conscience de son passage tient davantage à la régularité des flash infos qu'aux distances affichées par les panneaux. Dans ce calme mécanique, quelques enfants inventent des jeux silencieux qui leur font additionner les plaques d'immatriculation, prévoir le surgissement de la prochaine maison ou définir un rythme musical battu par les arbres, apparaissant, disparaissant dans la fenêtre contre laquelle leurs joues chaudes sont appuyées. L'incandescence de la joie de celui qui invente un jeu est tout à fait inatteignable. Il n'est pas impossible pour autant d'en admirer la beauté. Vous écoutez France Culture, il est 16h, passé de 1 minute, air de jeu. Roulez, petit bolide, il est l'heure des nouvelles vagues. Vers 16h45, les nouvelles vagues passent au singulier. Un seul micro et une seule personne pour cinq émotions considérées comme fondamentales. Après une vie bien remplie de footballeur, Lilian Thuram vit une vie bien remplie de projets centrés sur l'éducation, la transmission et la lutte contre toute forme de discrimination. Aujourd'hui, il évoque son face-à-face avec une sculpture d'Ousmane Sow, rencontre qui relève de la rencontre amoureuse avec le brin d'obsession qu'elle suppose. Rendez-vous sur le pont vers 16h45. Hier, nous étions sur l'autoroute, toujours, avec un photographe et son assistant, notre studio soudain transformé en camping-car Volkswagen. Il y avait avec nous le fantôme du photographe américain Luigi, ainsi que Julio Cortázar et Carol Dunlop en personne. Bizarrement, nous avons surtout privilégié les arrêts, ces heures de rien, sandwich et boissons gazeuses, passées à attendre la rencontre du troisième type. Julien Magre était notre invité hier et l'on a vu passer une biche.
Je me suis donné un protocole où en fait j'y allais une fois par semaine, en gros, en 6 mois environ, avec des interludes dans ces 6 mois où je partais 4 jours d'affilée dans des hôtels qui sont sur l'autoroute. C'est-à-dire que pendant 4 jours, je ne suis pas sorti de l'autoroute. Donc à base de sandwich triangle et de Coca-Cola, si je puis citer la marque, et à base de circulation en cercle dans un labyrinthe. Un peu angoissant. Ce qui m'a intéressé, c'est surtout de m'arrêter. Donc, j'ai plus passé mon temps à l'arrêt qu'à rouler. Et du coup, je peux même dire que j'ai passé des heures entières sur des aires de repos à ne rien faire pendant des heures et des heures. Donc, j'ai pas, au final, beaucoup roulé, paradoxalement, à l'autoroute.
Just like Christopher Columbus, you are
Pour commencer, Miss Chanel choisissait de vous faire entendre le titre Christopher Columbus de Groove Rise. Troisième moment d'une semaine entièrement passée sur l'autoroute. Lundi, nous évoquions le développement du réseau autoroutier en France, les idées et les décisions politiques qui y ont présidé, les montages financiers, la privatisation et les enjeux économiques, humains et géographiques de tel ou tel tracé. Hier, mardi, il y avait des enfants sauvages cachés derrière les arbres, des aires d'autoroute et des biches endormies sur les banquettes arrière des voitures. Le photographe Julien Magre parlait de sa série d'images réalisées sur et à côté de l'autoroute. Alors fort propice à la fiction. Aujourd'hui, les autoroutes sont celles dites de l'information. L'histoire dit que cette expression est utilisée pour la première fois par Al Gore, alors vice-président des États-Unis, pour expliquer le bouleversement technologique que sous-tend la création d'Internet, notamment dans l'accélération de la transmission des données à distance. Cette expression est reprise pour titrer un rapport remis au Premier ministre français en 1994. Dans ce rapport signé Bonafé et Théry, on peut lire « Internet tend à s'imposer au reste du monde et pourrait devenir, après amélioration, le vecteur américain prioritaire des autoroutes de l'information. » Depuis, c'est une expression fort employée. Il s'agira aujourd'hui de savoir en quoi la métaphore est pertinente et ce qu'elle nous dit, en fait, du réseau. Benjamin Bayard, vous êtes, entre beaucoup d'autres choses, que je laisse à chacun le soin de découvrir, le président de la Fédération des fournisseurs d'Internet associative. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Pour accéder à Internet, que faut-il ? Un ordinateur, bien sûr, un modem, des logiciels spécialisés et surtout bien comprendre l'anglais. Il faut ensuite se connecter à un serveur qui est en quelque sorte la barrière de péage à l'entrée de cette autoroute de l'information. Moyennant finance, vous pourrez alors surfer sur le net, vous deviendrez ce que l'on appelle un internaute.
Pas d'internet, dommage.
Question coût à présent. La plupart des serveurs sont encore localisés à Paris, ce qui gonfle la facture téléphonique. Mais tout va très vite sur le net et des prestataires commencent à s'installer en province. Ainsi, DTR, société lyonnaise de services télématiques, vient d'implanter en Rhône-Alpes le premier serveur Internet.
L'intérêt d'Internet aujourd'hui, c'est que les services en eux-mêmes sont gratuits. Vous ne payez pas pour accéder à des bases de données, vous ne payez pas pour envoyer des adresses, des messages à vos correspondants. Par contre, ce que vous payez, c'est le prestataire de service qui vous permet d'arriver au réseau. Alors, 2 à 3 heures par jour sur Internet, ça va lui coûter environ une grosse centaine de francs, si tant est qu'il puisse accéder au réseau sur un centre serveur qui est dans sa circonscription téléphonique.
Benjamin Bayard, on commence par un petit son qui est désormais un son d'archive. 1995, ce sont les tout débuts, pas vraiment les tout débuts, en tout cas les débuts de la communication sur Internet. C'est un son France 3, un son télévisé, qui nous permet d'introduire quelques mots extrêmement utilisés quand on parle d'Internet et dont on n'est pas certain tous de détenir les exactes définitions, puisque le mot serveur revient à plusieurs reprises dans cette archive. Est-ce que vous êtes en mesure de donner une définition exacte?
Alors oui, c'est assez facile de donner une définition exacte du mot serveur. Bon, d'abord, il faut comprendre ce qui est... Dans l'archive, ils utilisent serveur de manière très inappropriée. Ce n'est pas du tout d'un serveur qui parle, c'est d'un fournisseur d'accès Internet.
Donc on reviendra sur ce qu'est un fournisseur d'accès Internet.
Ils utilisent le mot serveur comme étant, en fait, à la place de fournisseur d'accès Internet. Et on sent très bien pour l'époque, parce que ça faisait un parallèle avec le serveur Minitel, qui était l'endroit où on payait. Un serveur sur Internet, contrairement à ce que croient la majorité des gens, c'est un logiciel. Ça n'est que un logiciel. Votre ordinateur, quand il est connecté à Internet, si vous y installez un logiciel qui permet de distribuer des pages web, devient un serveur web. Si vous y installez un logiciel qui permet d'émettre ou de transporter du courrier électronique, ça devient un serveur mail. Quand vous installez un logiciel qui fait du peer-to-peer, qui fait de l'échange de pair à pair, typiquement BitTorrent ou Emule, il devient serveur et client peer-to-peer à la fois. Donc un serveur, c'est un logiciel qui permet à un ordinateur de distribuer des informations selon un certain nombre de protocoles.
Un fournisseur d'accès à Internet.
Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Le fournisseur d'accès à Internet, c'est la personne qui fabrique le morceau de réseau sur lequel vous vous connectez et qui vous fournit de la connexion sur son réseau. Qui fabrique un bout de réseau qui peut être tout petit, constitué de quelques centaines d'adresses, ou qui peut être gigantesque, constitué de plusieurs centaines de millions d'adresses, et qui, pendant que vous êtes connecté, vous donne une adresse qui permet à votre machine d'être jointe. Exactement comme quand votre téléphone mobile accroche le réseau, alors il est joignable et il a un numéro de téléphone. Tant qu'il n'est pas accroché sur le réseau, le numéro de téléphone qu'il a est imaginaire.
Quand vous parlez d'une adresse qui nous est donnée au moment de cette connexion pour pouvoir accrocher le réseau avec notre ordinateur, c'est l'adresse que l'on dit IP ?
Oui, c'est l'adresse que l'on dit IP. Je ne parle pas du tout de l'adresse mail, mais bien de l'adresse numérique qu'a votre ordinateur quand il se connecte. Chez les fournisseurs polis et bien élevés, cette adresse est fixe. Chez l'immense majorité des fournisseurs, elle ne l'est pas. Peu comme si vous changiez de numéro de téléphone à chaque fois que vous rallumez votre portable. Ce ne serait pas super pratique.
C'était la deuxième question. Vous dites qu'il nous est fourni une adresse au moment de notre accrochage au réseau. En quoi est-ce que c'est important de préciser que cette adresse est fixe ou non fixe ?
C'est exactement l'équivalent du numéro de téléphone. Si vous changez de numéro de téléphone toutes les demi-heures, vous pouvez quand même appeler les gens, mais vous ne pouvez pas être appelé parce que vous n'êtes pas capable d'écrire sur votre carte de visite votre numéro de téléphone. Ben, de la même manière, si votre ordinateur change d'adresse IP tout le temps, il peut appeler. Donc il peut aller consulter des services qui sont publiés, mais il ne peut pas en publier, puisque son adresse change tout le temps et que vous seriez incapable de donner l'adresse à quelqu'un. La principale différence entre www.google.fr et le nom de votre machine à vous sur Internet, c'est que l'adresse IP de Google ne change pas toutes les semaines.
Ce qui permet d'un côté d'être émetteur et d'être de l'autre côté simplement consommateur. Est-ce que c'est ainsi qu'on peut résumer les choses ?
Oui, et c'est un des éléments fondamentaux pour comprendre ce que c'est qu'Internet. Sur le Minitel, vous êtes nécessairement consommateur. Un serveur Minitel, c'est-à-dire le logiciel qui permet de diffuser des services, est totalement différent du client Minitel que monsieur et madame tout le monde a dans son salon. Sur Internet, ce n'est pas le cas. L'ordinateur et la connexion au réseau est la même. Votre ordinateur tout à fait normal, connecté au réseau de manière tout à fait normale, si vous installez le bon logiciel dessus, il peut faire serveur. Et à l'heure actuelle, la seule chose qui complique un tout petit peu la vie, c'est que la majorité des grands fournisseurs d'accès ne fournissent pas une adresse fixe et que donc votre machine change d'adresse à chaque fois que vous redémarrez votre box, et que donc c'est très compliqué d'héberger quelque chose chez soi.
Est-ce qu'on peut dire que par là, la majorité des fournisseurs d'accès, que vous appelez impolis, empêche la majorité des utilisateurs d'être des émetteurs de contenu ?
Oui.
Pourquoi ?
En fait, parce qu'ils partent du principe que les gens sont bêtes et n'en ont pas besoin.
Ou ne veulent pas ça ?
Non, même pas. Pour le coup, il y a une très grande arrogance de la part des fournisseurs d'accès sur le fait de savoir ce que les clients veulent. Jusqu'à il y a encore un an, même les grands dirigeants de chez France Télécom expliquaient qu'il n'y avait pas d'appétence chez les clients pour la fibre optique. On constate dans la pratique qu'à chaque fois que la fibre est installée quelque part et que les clients y souscrivent, ils en sont ravis, de nouveaux usages se développent, ils font des choses nouvelles avec, etc. On constate que dans tous les endroits où l'accès Internet est de mauvaise qualité, les gens réclament. Les élus constatent sur le terrain que les gens demandent quelle est la qualité de l'accès à Internet dans telle ou telle zone. Et on considère qu'une maison dans laquelle il n'y a pas Internet n'est pas habitable, comme s'il n'y avait pas l'eau. Mais les dirigeants des grands FAI expliquent que pour tel ou tel usage, il n'y a pas d'appétence. En général, ça indique simplement que le directeur marketing n'a pas compris à quoi ça servait.
Donc ce n'est pas plus politique que ça ?
Probablement pas. Ils ont une vision du monde où les gens sont priés d'être clients passifs. C'est une vision qui date de l'époque de la télévision. C'est classique chez les gens qui ont une approche, qui sont des nouveaux venus dans le monde d'Internet. La majorité des dirigeants des grands fournisseurs d'accès Internet sont des gens qui sont pas sur Internet depuis très longtemps, qui ne sont pas des pionniers, qui ont appris à faire ça parce que c'est un métier, il faut bien le faire. Ce ne sont pas des passionnés, ce ne sont pas des gens qui baignent dans le réseau depuis 20 ou 30 ans et qui en sont imprégnés par tous les pores de la peau. C'est quelque chose de très... En général, ça dénote vraiment une incompréhension. Moi, j'ai vu très souvent des directeurs marketing de très grandes entreprises autour du numérique ne rien comprendre à ce qu'ils vendent juste parce qu'ils ne sont pas utilisateurs des produits. Et ça n'aide pas.
Et ne pas soupçonner que les utilisateurs du produit peuvent vouloir être à un autre endroit que la seule consommation du contenu.
Quand on ne sait pas lire, on a du mal à croire qu'il y ait des gens que ça puisse intéresser de savoir lire. C'est le fond du problème.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues, par Marie Richaud.
Depuis que je fais de l'informatique, je n'ai plus que des embêtements. Ah mon Dieu, quelle gymnastique, c'est pas tous les jours très marrant. Mais attendez que je vous explique tout ce qui cause mon tourment. J'ai le Mac qui est pas trac, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc, le disque dur, pas bien dur, le clavier tout bloqué, le modem qu'a la flemme, l'imprimante bien trop lente, les cartouches qui se touchent et les bus qui abusent, les polices qui pâlissent, le DVD fatigué, le scanner cassé nerf, le menu pomme dans les pommes, c'est des ROM, c'est tout comme la mémoire sans espoir, les options en options, la souris rabougrie, le mulot qui est trop gros. Ah mon Dieu que c'est palpitant toute cette informatique, ah mon Dieu que c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps. Comme j'ai un bug dans le système, je téléphone au réparateur. Il me demande:
quel est votre problème? Je vous écoute, j'ai un quart d'heure.
Je lui dis: soyez pas si pressé et laissez-moi vous expliquer.
Allez-y.
J'ai le Mac qui est pas trac, le PC déglingué. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai l'email qui s'en mêle, les circuits qui sont cuits, raccourcis, rikiki. J'ai l'index qui est perplexe, les pixels en rondelles, l'USB constipé. J'ai les bits qui s'agitent, la sauvegarde pas gaillarde, la disquette qui caquette, l'utilitaire qui a des verres, les icônes qui déconnent, le processeur qui est farceur, le graveur qui est en pleurs, le lecteur qui balbeurre, le moniteur et ta sœur. Ah mon Dieu, c'est palpitant toute cette informatique. Ah mon Dieu, c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps.
J'ai invité la belle Suzanne l'autre jour au cybercafé. Elle m'a dit:
je préfère ta bécane, allons chez toi, fais-moi surfer.
Hélas, ma machine est en panne. Galère. Quand je lui réponds, je suis désolé. J'ai le Mac qui patraque, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc, ouais. Le disque dur, pas bien dur, le clavier tout bloqué,
pas
le
dur.
Modem qu'a la flemme, l'imprimante bien trop lente, la cartouche qui se touche et les buses qui abusent,
oh,
les polices qui pâlissent, le DVD fatigué, le scanner cassé nerf, le menu pomme dans les pommes, c'est des ROM, c'est tout comme la mémoire sans espoir, les options en options, la souris rabougrie, le mulot qui est trop gros. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai l'email qui s'en mêle, les circuits qui sont cuits, raccourcis, rikiki, j'ai l'index qui est perplexe, les pixels en rondelles, l'USB constipé, j'ai les bits qui s'agitent, la sauvegarde pas gaillarde, la disquette qui caquette, l'utilitaire qui a des verres, les icônes qui déconnent, le processeur qui est farceur, le graveur qui est en pleurs, le lecteur qui balbeur, moniteur et ta sœur.
En plus de ça, je vous cache pas, j'ai aussi quels soucis, les octets pas très frais, les virus plein de tonus, les majuscules qui se bousculent, les minuscules qui copulent, le Windows qui est morose, les programmes c'est un drame, et la puce en lotus, le cordon en tire-bouchon, les MS-DOS qui a des bosses, les menus mal foutus, le logiciel mon mari, et l'audio qui est idiot, la carte son qui est marron, la couleur, quelle horreur, les fenêtres qui se pénètrent, les symboles qui s'affolent, le système bien trop blême, le réseau qui prend l'eau, et du coup voyez-vous, il vaut mieux que vous partiez, car je sens c'est navrant, je peux plus rien maîtriser. Ah mon Dieu que c'est palpitant toute cette informatique. Ah mon Dieu que c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps. Ah mon Dieu que c'est affolant toute cette informatique. Ah mon Dieu que c'est affolant, mais qu'est-ce qu'on ferait sans.
Ils vont faire des véritables une autoroute de des autoroutes de l'information,
ouais. Qui vont vraiment... Il y en a déjà pas mal, hein, des
oui.
Informations.
Ouais, mais là,
même sur des autoroutes.
Oui, mais là,
il
est...
Le prix du carburant,
oui.
Ils indiquent les restaurants, les tests de gonflage,
oui,
les aires de repos.
Oui,
hein.
Ou même l'altitude et
ah oui,
les températures.
Ah oui.
Mais là, ils vont tisser une toile d'araignée, hein,
oui.
Sur tout le pays qui vont aider à.
Ben
et ça
vous,
va être.
Même
vraiment...
une semaine, vous partez une semaine, il y en a.
Quand vous en louez des informations qui...
Des araignées.
Oui,
vous partez une semaine de chez vous, il y en a, ils se retrouvent toujours.
Oui, mais non, je vous parle pas.
Ah,
non,
si.
Oui, mais je vous parle pas de ça.
Si vous en avez.
Non,
si vous en avez.
Oui, mais je vous dis que vous aurez des ils vont faire même des autoroutes de l'information, vous en aurez même ça passera par chez vous,
ah,
ça
non.
Passera par tout le monde.
Ah non, alors là je suis
de quoi non.
Je suis vers le CADAS.
Comme quoi c'est important de se mettre d'accord sur les termes que l'on utilise. On entend à l'instant Benjamin Bayard, les déchiens qui commentent cette expression des autoroutes de l'information. J'ai rappelé tout à l'heure une éventuelle histoire du surgissement de cette expression. D'abord Al Gore et ensuite un rapport au mieux Premier ministre français en 1994. Qu'est-ce que ça désigne au départ?
En fait, ce qui est intéressant, c'est le moment où Al Gore se met à utiliser l'expression. Ça correspond à un choix politique fait par les États-Unis, exactement comme dans les années, fin des années 50, début des années 60, il me semble, les États-Unis ont décidé de mettre l'accent sur le cinéma. et d'utiliser l'industrie cinématographique d'abord comme industrie d'excellence et ensuite comme moyen de répandre leur culture dans le monde et de s'imposer une forme d'impérialisme. De la même manière, le moment où Al Gore lance les grands programmes d'investissement dans ce qu'il appelle les autoroutes de l'information, ça correspond au moment où les États-Unis décident d'être dans l'excellence et dans la domination en matière d'Internet, de données, de programmes, de numérique, de diffusion de l'information.
Avec quels objectifs et avec quelle conscience de leur possibilité à atteindre ces objectifs ? On est au milieu des années 90.
Ah mais l'objectif, il est très clair. Ils veulent que ce soit un pan majeur de l'économie à venir et ils veulent être les maîtres incontestés du monde de ce pan majeur de l'économie. Et force est de constater qu'ils y ont parfaitement réussi. Ils se sont donné les moyens. C'est absolument pas par hasard. Ils se sont, par une politique industrielle volontaire, ils se sont donné les moyens d'être les leaders dans ce domaine économique et ils le sont.
On en parle d'autoroute quand on parle d'une accélération, forcément, puisque c'est une voie où il y a possibilité d'aller plus vite que sur les autres voies, surtout quand on parle d'une autoroute à l'égard du réseau routier. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a une désignation d'une accélération de la transmission des données ?
Oui, alors techniquement, ça correspond à des projets qui aujourd'hui font presque sourire, mais simplement, sur le réseau des années 90, l'utilisateur se connecte en bas débit. Et les opérateurs entre eux sont connectés par des moyens tous plus ou moins bricolés et avec des débits très aléatoires. C'est-à-dire, typiquement, pour relier deux opérateurs qui sont tous les deux présents dans Paris, on loue plusieurs lignes de téléphone, on met des modems très particuliers qui permettent d'obtenir des débits qui, à l'époque, paraissent merveilleux. En techno, c'est l'équivalent de ce qu'on fait en DSL aujourd'hui. On agrège 5, 10, 20, 30 lignes de téléphone entre elles s'il le faut pour obtenir des débits à peu près convenables. Enfin, tout ça est extrêmement bricolé. Et dès qu'on veut faire des plus grandes distances, on est obligé de vampiriser le réseau téléphonique pour essayer de trouver un petit peu de capacité pour transporter les données. Le projet qui est lancé par Al Gore, il est très simple, c'est poser un réseau de fibre optique entre les grandes villes américaines, éventuellement entre les petites villes, qui permet d'augmenter la capacité de transport de données du réseau physique, hein, s'entend, avec comme objectif de permettre le développement d'Internet et de permettre que les données circulent.
Est-ce qu'on veut permettre le développement d'Internet ou est-ce qu'on veut faire circuler des données plus vite entre plusieurs points de plus en plus nombreux et donc on a besoin que se développe le réseau ?
C'est la même chose, en fait. Il n'y a pas de différence entre les deux. C'est-à-dire que pour que le réseau puisse se développer, il faut qu'on arrête de faire dans le bricolage et donc à l'époque, on commence à poser les premières fibres optiques pour relier les villes entre elles, sachant qu'une fibre optique, ça peut très bien être utilisé pour du téléphone. Quand on veut raccorder une ville au téléphone, le raccordement du central téléphonique de la ville se fait en fibre optique depuis déjà longtemps. Ça permet en fait que toute la capacité qui est vampirisée par Internet, à l'époque Internet prélève la capacité de transport sur le réseau téléphonique. Et donc, il faut soit augmenter terriblement la capacité de transport du réseau téléphonique, soit créer un réseau à côté pour Internet. Et c'est un subtil mélange des deux. De nos jours, dans tous les grands pays, c'est le contraire qui se produit. C'est-à-dire que le réseau de base, c'est Internet, et le réseau téléphonique est transporté sur le réseau Internet. Il vampirise un petit peu de la capacité d'Internet.
En quoi est-ce qu'on peut pousser un peu plus loin l'utilisation de cette métaphore de l'autoroute de l'information pour qualifier peut-être aujourd'hui les enjeux contemporains d'Internet ? En quoi est-ce que c'est intéressant de continuer de parler des autoroutes de l'information ?
Bon, d'abord parce que c'est un mot facile, alors ça évite de devoir tout le temps réexpliquer aux journalistes. Ça,
c'est plutôt déjà pas mal.
C'est plutôt pas mal. Ensuite, il se trouve qu'il y a quelques similitudes. C'est-à-dire que, par exemple, les problématiques qui se posent aujourd'hui dans le déploiement de la fibre optique pour l'abonné, savoir si tel village sera ou pas desservi en fibre optique et quand il le sera, c'est une question d'aménagement du territoire qui est beaucoup plus sévère qu'au XIXe siècle, savoir s'il y aura le train ou pas.
C'est-à-dire que les enjeux dont nous parlions lundi sur l'histoire du développement du réseau autoroutier en France, des questions qui animent la classe politique des années 1930 aux années 1950 pour savoir par où on va passer, quel genre d'autoroute on va construire, quel village ça va traverser, quel champ ça va découper en deux, quelle redéfinition de l'activité agricole ou non cela va imposer, sont des questions qui sont quasiment similaires si on les applique aujourd'hui au déploiement de la fibre optique.
Alors oui, elles sont extrêmement similaires et elles sont en fait beaucoup plus tranchées et beaucoup plus fortes.
Pourquoi ?
si l'autoroute ne passe pas dans tel village, mais passe à 5 km du village, le village a un développement économique.
Autoroute voiture, vous voulez dire ?
Autoroute voiture. Aujourd'hui, c'est très mécanique. S'il n'y a pas d'accès à Internet dans une maison, elle n'est pas habitable.
Alors moi, je vis dans une maison où il n'y a pas d'accès Internet.
Ça veut dire que vous devez aller chez le voisin pour déclarer vos impôts. Ça veut dire que vous devez aller chez le voisin pour vous enregistrer tous les mois chez Pôle emploi.
C'est vrai.
Ça veut dire que vous devez aller chez le voisin quand vous voulez envoyer un mail à votre patron pour dire que vous serez en retard au boulot ou que vous êtes malade.
Ou disposer d'un iPhone.
Ben, ça veut dire que vous avez un accès Internet.
Un accès
il
Internet.
Est mobile, mais il y a un accès Internet. S'il n'y a pas d'accès Internet, à très court terme, ce ne sera plus considéré comme habitable. Et il ne peut pas y avoir d'activité, dans les 5 ou 10 ans qui viennent, il ne peut pas y avoir d'activité économique dans un territoire où il n'y a pas un accès Internet convenable. Simplement pour le cabinet du médecin, si pour faire toutes les déclarations, les télédéclarations d'ordonnance, avec la carte vitale et tout ça,
il
doit faire 10 km pour aller au bourg à côté, et ben il ne va pas installer son cabinet à cet endroit-là. Il va installer son cabinet à un endroit où il peut bosser. Si pour récupérer les radios que vous avez faites et qui de plus en plus se récupéreront via des dossiers informatiques et via le réseau, il doit avoir un accès avec un débit suffisant pour faire transiter la radio et que ça ne mette pas 2 heures. Tout ça fait que, en gros, un territoire sur lequel il n'y a pas d'accès au réseau est un territoire qui va se mourir très vite, qui va s'étioler. Et c'est pour ça qu'un des enjeux majeurs, c'est une des grandes erreurs qu'on fait en France, on cherche absolument à mettre la fibre en toute priorité dans les centres-villes, ce qui est idiot. En centre-ville, il y a déjà du câble, il y a déjà de la DSL qui marche bien, il y a déjà plein de choses. Faut mettre de la fibre optique en toute priorité dans les zones les plus mal desservies. Parce que les zones les plus mal desservies sont celles qui sont en train de se dessécher économiquement.
Ces problématiques de désenclavement, on en parlait lundi, ce sont des problématiques auxquelles répondent ou ne répondent pas les politiques. Il y a des gens qui sont décisionnaires et qui disent oui, cette autoroute va passer par là, ou non, cette autoroute n'y passera pas, ou oui, tel village sera desservi par une route qui passera à côté et il permettra de pouvoir lancer des transports ou récupérer des transports. Qui décide aujourd'hui d'installer de la fibre optique dans tel ou tel village ?
Essentiellement les politiques, plus un poids extrêmement déformé porté par France Télécom, opérateur privé, simplement parce que les choix d'aménagement du territoire en France ont été faits de telle sorte qu'on mette en avant Orange.
France Télécom égale Orange.
Oui, oui, de manière extrêmement déformée. C'est-à-dire qu'Orange a un poids anormal dans les décisions et... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de territoires s'en remettent à ce que Orange veut bien faire plutôt que de décider de leur aménagement numérique.
Pour des raisons ?
Parce que politiquement, c'est plus facile.
C'est plus simple, c'est-à-dire que voilà, on a l'habitude de travailler avec un opérateur spécial.
C'est une forme de démission pour les politiques locaux. Peut-on dire ça poliment à la radio ?
Essayez d'être poli quand même.
Je ne sais pas combien de conseillers de cabinet ministériel finiront haut gradé chez Orange ou combien d'anciens ministres finiront avec des postes reluisants chez Orange après. C'est pas exclu comme motivation.
Bon ben voilà, ça c'est clair, c'est poli mais c'est clair. Quand on parle d'autoroute, on parle souvent de péage. Ça a été très central dans la première partie de notre discussion, toujours lundi, sur l'autoroute automobile. À quoi correspondraient aujourd'hui les péages si on s'en réfère à l'autoroute de l'informatique, de l'Internet ?
Alors en fait, il faut comprendre que ce qui coûte cher dans le réseau Internet, de manière très surprenante, ce ne sont pas les échanges de données internationaux. Si je caricature un petit peu, sur les 30 euros d'abonnement mensuel que vous payez pour votre accès fixe chez vous, il y a entre 10 et 15 euros qui servent à raccorder votre logement. Parce que ça coûte énormément.
Physiquement,
hein ? Oui, physiquement. Alors, il se trouve que quand c'est sur le réseau téléphonique, ça a été financé depuis longtemps et amorti depuis très longtemps. Mais le dernier kilomètre de fil pour venir chez vous, pour venir poser les câbles dans tous les logements de France, ça coûte une fortune à poser et donc ça s'amortit sur très longtemps. Le transport au niveau national, c'est-à-dire ce qui fait que vous, à Paris, vous pouvez envoyer du contenu à quelqu'un à Marseille, le réseau national de transport coûte à peu près 10 fois moins. C'est-à-dire que c'est pour 1 ou 2 euros dans votre abonnement. Et le transport international coûte encore 10 fois moins. Et donc le transport de données entre les États-Unis et l'Europe dans votre abonnement d'accès Internet, ça correspond à entre 10 et 20 centimes, mais plus probablement 10.
Pourquoi ? Pour être sûr de bien comprendre.
Pourquoi ? Simplement parce que le câble qui raccorde votre logement, il a été posé exprès pour vous. Alors, il n'est pas très gros, il n'est pas très beau, mais il a été posé exprès pour vous.
Et je suis seule à l'utiliser.
Et vous êtes la seule à l'utiliser. Ça a coûté plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros de le poser. Le câble qui traverse l'Atlantique, il a coûté une douille à poser. On est en centaines de millions d'euros ou en milliards.
Mais on est beaucoup à l'utiliser.
Mais toute l'Europe s'en sert. Et donc, ce câble qui est posé pour 20, 30 ou 40 ans, qui est utilisé par toute l'Europe et tous les États-Unis, en fait, les quelques centaines de millions d'euros rapportés sur 300 millions d'utilisateurs de part et d'autre de l'Atlantique, rapportés sur 30 ans de durée d'amortissement, le prix par abonné est infinitésimal, c'est en centimes, c'est ridiculement faible.
Vous parlez d'amortissement, l'une des questions qui se pose évidemment dès lors que une route est construite, une autoroute est construite, et que voilà, les prêts qui ont été faits aux banques pour faire cette construction ont été remboursés par les entreprises qui se sont occupées de développer et de construire ces autoroutes. Pourquoi continue-t-on à payer? C'est l'une des questions que posent les utilisateurs. Est-ce que ce n'est pas une question qu'on peut poser? Si ces fameux câbles sont posés, s'ils ont coûté tant de millions, mais que finalement, avec tous nos abonnements, on a remboursé cette construction déjà depuis un moment, pourquoi est-ce qu'on continuerait à payer?
Alors d'abord parce qu'on n'a pas du tout remboursé les abonnements.
Enfin, on n'a pas remboursé les abonnements,
la construction. Alors ça dépend quoi? La construction du réseau téléphonique cuivre, ça fait longtemps qu'elle est remboursée. La construction du réseau fibre, elle est en cours. Donc elle n'est même pas commencée de rembourser. Mmh. Et en fait, pour financer les investissements du réseau futur, on utilise les abonnements du réseau passé. C'est-à-dire ce que vous payez comme abonnement sur le réseau ADSL, qui, au bout du bout, finit toujours par tomber dans les caisses d'Orange, puisque c'est lui qui détient le fameux réseau de cuivre téléphonique.
Parce qu'en fait, on est toujours appuyé sur ce fameux réseau téléphonique évoqué au milieu des années 90.
Oui, on est toujours appuyé sur le réseau physique du téléphone. Le réseau physique, c'est le fil de cuivre qui servait à faire passer le téléphone.
Ça veut dire que concrètement, toute personne voulant fournir Internet à qui que ce soit doit donner quelque chose à Orange qui détient ce réseau physique.
Oui. Aujourd'hui, oui. Hormis quand on arrive à passer par d'autres biais comme la fibre optique, mais quand on veut faire de la DSL...
On viendra aussi itinéraire bis dans un instant.
Ouais, quand on veut passer sur la DSL, on finit toujours à un moment ou à un autre par donner de l'argent à Orange. Et en fait, les sommes qui sont payées aux opérateurs leur permettent certes de rémunérer l'actionnaire, mais aussi de financer leurs investissements.
Donc il y a une part dans les abonnements que nous payons pour avoir accès à Internet qui sert de manière concrète tout de même à continuer de construire des réseaux que nous allons utiliser.
Oui. Oui, très clairement.
Am I crazy or am I blind? Someone told me about my mind, oh. Someone told me a girl I lied. Fell in love and all I did was cry, oh. Someone hurt me, I'm done with this game. Said I'm sorry, but I'm not to blame. What a shame. Try to break from this lonely pain. Someone told me I'm just insane, oh. Broke my heart when I knew that I could never be with you, oh. Someone loved me, but not today. Will you show me a way how to love? Oh. Thank you. Someone taught me a girl I like. Fed in love and all I did was cry.
Benjamin Bayard, on a dit que peut-être on emprunterait les itinéraires bis de ces autoroutes de l'information qu'on a évoquées auparavant. Quels peuvent-ils être si, par exemple, le physique qui est extrêmement important, bien sûr, dans la circulation, essentiel, est détenu par un seul grand groupe en France notamment. Comment contourner ? Qu'est-ce qu'il existe comme petite route nationale, comme petit chemin de traverse ?
Alors, il y a deux exemples que j'ai envie de citer et qui, pour moi, sont relativement éclairants. Il y a ce qu'on fait d'abord dans la partie des services et non pas dans la partie du réseau physique. Les fournisseurs d'accès associatif qui sont fédérés
dans la fameuse fédération
que je préside, on est 26 fournisseurs d'accès internet associatif en France et ils s'en créent en moyenne 6 ou 7 par an en ce moment. On fournit tous des adresses IP fixes à nos membres. On fournit tous les outils nécessaires pour les aider à devenir des diffuseurs. Pas seulement à pouvoir produire du contenu comme ouvrir un blog sur une grande plateforme centralisée aux États-Unis. Non, à pouvoir diffuser leurs informations depuis chez eux. Ça, c'est une première façon d'emprunter des itinéraires bis. C'est-à-dire qu'on utilise la même infrastructure parce que nous, on n'a pas les 20 milliards d'euros pour construire un réseau. Mais ces infrastructures qu'on loue chez les grands, on essaye d'apporter un service qui soit d'une qualité qui nous paraît plus raisonnable.
Ce qui déplace, pour référer au début de notre conversation, de la position imposée de consommateur du réseau à une position possible, pas forcément empruntée, mais possible d'émetteur.
Oui, c'est-à-dire que vous passez de consommateur à citoyen, ce qui est une démarche relativement intéressante.
Avec l'adresse IP fixe.
Entre autres. Donc ça, c'est le premier exemple. Ça, c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui peut décider de s'abonner chez un fournisseur d'accès qui est une association dont il est membre et où il a un droit de vote en AG, plutôt que d'être client d'une multinationale. La deuxième chose qu'on fait, c'est certaines associations de la fédération œuvrent dans ce qu'on appelle les zones blanches. C'est en fait dans des bouts du territoire où il n'y a rien ou presque rien en matière d'accès. Typiquement, le hameau isolé en périphérie de la petite ville. Alors certes, dans le centre de la petite ville, il y a de la DSL correcte, mais dans le hameau, il y a 512 kilos, si tout va bien, le vent dans le dos et pour peu qu'il ne fasse pas humide.
Pour ceux qui ne maîtrisent pas exactement ce genre de chiffres, 512 kilos, ça ne vous permet pas du tout de voir des grosses images, voir de la
regarder,
vidéo.
Regarder des vidéos, il n'y a pas moyen. Un site web dans lequel il y a des images, c'est pénible.
Dès que c'est animé, ça
marche
pas.
Et n'importe quel site web un tout petit peu moderne, donc où il y a des choses qui bougent, même si ce n'est pas des images ou de la vidéo, c'est infernalement lent. Rien que l'utilisation de Facebook est épouvantable.
Donc 512 kilos, c'est vraiment du texte, quoi.
C'est-à-dire qu'en fait, c'était de l'accès très haut de gamme en 1997.
Du temps est passé.
Voilà, du temps est passé.
Dans ces zones blanches.
Dans ces zones-là, quand il y a des gens un petit peu motivés pour pas seulement râler, mais faire, alors on peut avec eux fabriquer du réseau. Et en général, on s'appuie sur des technologies autour du Wi-Fi. Les gens sont très surpris. Ils pensent que le Wi-Fi, ça permet seulement de transporter les données entre le séjour et la salle à manger. Et en fait, non. Bien utilisé, avec des antennes bien choisies et des équipements bien choisis, on peut faire du réseau très 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 convenable avec du Wi-Fi. C'est comme ça, par exemple, que certaines de nos associations commencent à équiper des écoles. Des écoles qui se retrouvaient avec misérablement 512 kilos ou 1 méga. Une fois qu'on les a équipées et qu'on a monté un peu de réseau autour, se retrouvent avec 20 ou 30 mégas et, plus intéressant, symétrique, ce qui n'existe pas en ADSL. En ADSL, quand vous avez 20 mégas pour consulter, vous avez à peine 1 pour émettre. C'est ce qui fait qu'envoyer les photos par mail, c'est pénible, que publier une vidéo, c'est l'enfer. Avoir du réseau symétrique...
Ce qu'on appelle le SDSL ?
Oui, c'est une des technos qui l'amène, le symétrique DSL. Mais le Wi-Fi est symétrique par nature. La fibre optique, quand elle n'est pas bricolée, quand elle n'est pas abîmée par du marketing, naturellement, elle est symétrique.
Symétrique, ça veut dire que j'ai la même puissance pour émettre que la puissance pour être consommateur.
Oui, vous avez le même débit disponible pour émettre que pour recevoir.
Est-ce que vous pouvez expliquer techniquement comment, à partir d'un Wi-Fi, comment est-ce qu'il peut être possible de bricoler du réseau à partir d'un Wi-Fi dans un endroit qui n'a pas d'accès à Internet massif ?
Ben en fait, on prend des antennes directionnelles. Alors une antenne directionnelle, c'est pas magique du tout, c'est une petite gamelle en tôle qui ressemble un peu à une antenne satellite, si vous voulez. Et au lieu d'émettre des ondes Wi-Fi dans toutes les directions, elle émet dans une direction très 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 précise. Et du coup, elle peut aller beaucoup plus loin. Au lieu de faire 20 ou 30 mètres, elle peut faire 5, 10, 15, 20 kilomètres. Et du coup, le hameau paumé, on va y mettre une antenne qui va pointer vers le château d'eau. Et sur le château d'eau, on va mettre une antenne qui va pointer vers la ville dans laquelle il y a du gros débit. Typiquement une fibre optique qui arrive ou un très bon ADSL.
Fabriquer du relais en fait.
Ben, on fabrique du réseau. Du réseau, ça n'est que ça. Et donc on fabrique le réseau par des liens Wi-Fi entre les différents points nécessaires pour raccorder le hameau à un endroit où il y a un débit plus convenable. Et ensuite, on distribue entre les habitations dans le hameau le réseau. Et les montants en jeu sont ridiculement faibles.
C'est-à-dire, pour avoir une idée ?
Oh, une petite antenne directionnelle, ça vaut 35 euros. L'équipement électronique qu'on met derrière, le petit boîtier Wi-Fi, il vaut entre 20 et 40 euros selon le modèle. Raccorder un hameau, c'est un peu de transpiration de la part des bénévoles, c'est un peu de savoir-faire, et puis c'est 300-400 euros de matériel pour faire quelques antennes, quelques relais.
Tout à l'heure, vous avez dit que ces fournisseurs d'accès Internet associatif devaient forcément payer quelque chose aux grands, donc payer pour le réseau physique. Quel est le rapport que vous entretenez avec les grands ?
Alors, pendant très longtemps, ils nous ont cordialement ignorés. Ils commencent à pas nous aimer. C'est-à-dire qu'on a...
Parce que l'itinéraire bis, ça va tant qu'il n'y a pas trop de voitures qui l'empruntent.
Non, alors ce qu'on fait sur le Wi-Fi, ils n'en ont strictement rien à faire. Les clients dont on s'occupe et à qui on amène du réseau sont les gens qui le délaissent. Donc s'ils veulent...
S'ils avaient envie d'y aller, ils iraient.
Voilà, s'ils voulaient y aller, ils iraient. Et nous n'aurions plus de raison d'être. Et on serait ravis de plus avoir de raison d'être. Ça voudrait dire que l'aménagement du territoire se fait. Donc là-dessus, on ne se gêne pas. Non, ce qui les embête, ce sont les positions politiques qu'on prend.
C'est-à-dire
Typiquement, tout à l'heure, je vous ai expliqué pourquoi Orange était trop présent. Et ils n'aiment pas qu'on le dise.
Quand on parle de fournisseurs d'accès à Internet associatif, est-ce que c'est une alternative possible, massive, à d'autres fournisseurs d'accès que la concurrence réduit de plus en plus en France et dans le reste du monde ?
Alors, est-ce que c'est possible ? Oui. Est-ce que ça peut avoir lieu en l'état ? Non.
Pourquoi ?
Parce que quand vous êtes abonné chez un fournisseur d'accès Internet associatif, vous n'êtes pas client. L'association, c'est la somme de ses membres. Elle n'est que la somme de ses membres. Les gens n'ont pas envie d'être acteurs de ce qu'ils font. Ils ont envie d'être consommateurs, ils ont envie de gueuler quand c'est en panne.
Attention, vous allez parler comme quelqu'un de la télévision, là.
La majorité des gens veulent ça. Il y a pas mal de gens qui veulent autre chose, mais la majorité des gens veulent ça. Et n'ont pas envie de changer d'état d'esprit.
Mais vous ne pouvez pas à la fois critiquer les gens qui parlent à la place des autres en disant « je suis directeur d'une chaîne de télévision et les téléspectateurs veulent ça » et vous-même qui prenez la différence et envisagez des solutions alternatives, dire « la majorité des utilisateurs d'Internet ne veulent être que consommateurs ». Il y a peu d'espoir sinon.
Il se trouve que nous on constate, quand on propose ces solutions-là, il y a des gens qui le prennent tout de suite, qui embrayent, qui sont ravis de plus être passifs et de devenir acteurs de ce qu'ils utilisent. Et on constate qu'il y a beaucoup de gens à qui on l'explique et qui le comprennent et qui nous disent « Ok, je comprends comment ça marche, j'ai pas envie. » Bon, peut-être parce qu'ils ne sont pas encore habitués à une société plus ouverte, peut-être simplement parce qu'ils n'ont pas envie de s'en préoccuper. On constate qu'une grande partie des gens n'ont vraiment pas envie. La question devient beaucoup plus sérieuse tant qu'ils n'ont pas trouvé une motivation. Vous ne vous préoccupez pas de comment votre boucher obtient la viande que vous mangez tant qu'il n'y a pas la vache folle. La majorité des gens ne se préoccupent pas de leurs données personnelles tant qu'on n'a pas les révélations d'Edward Snowden sur le fait que la totalité de la planète est espionnée en permanence et que la totalité de la population est en permanence surveillée.
Parce que bien sûr, on n'a pas évoqué cette dimension-là, mais chaque péage, tous ces moments où notre voiture ou tous ces moments où la donnée s'arrête est un moment où la donnée est contrôlée. Et regardée, pas forcément contrôlée, en tout cas, elle est regardée ou regardable.
Elle est regardable, de manière certaine. Et plus... En fait, s'il y a quelques très gros acteurs, c'est très facile à contrôler et le lien avec les volontés gouvernementales de contrôle de la population sont évidents. S'il y a énormément de petits acteurs, c'est très compliqué à contrôler parce qu'il faut réussir à contraindre une myriade de petits acteurs.
Mais... Pourtant, vous soutenez que tout citoyen que nous sommes la majorité d'entre nous ne souhaite pas...
Pas encore.
Avoir une dispersion, finalement, de ces fournisseurs d'accès, une multiplication de ces fournisseurs d'accès qui rend plus difficile, voire impossible, le caractère contrôlable de la circulation des données.
En fait, la majorité des gens avec qui on en parle, soit arrivent à la conclusion que ce serait bien, mais ils ne sont pas prêts à faire un effort.
Ça, quel est l'effort demandé ?
Ben, typiquement, dans le cas que je décrivais, un village dans lequel il n'y a pas d'accès, et, etc., ben, faut monter l'association, puis il va bien falloir des bénévoles pour la faire vivre. Il va falloir investir quelques centaines ou quelques milliers d'euros pour équiper le village. Du coup, il va falloir gérer la trésorerie d'une association pour rembourser ça avec des abonnements mensuels de tout le monde. Ben voilà, faire vivre une petite association, tout le monde n'a pas envie de le faire. Et en fait, il faut créer une motivation. Mais on constate ça aussi, je prends un exemple qui n'a aucun rapport, les associations sportives, le club de foot pour les gamins. Ce sont souvent des associations qui sont gérées par des bénévoles et on constate bien que sur 30 par an, il y en a un ou deux qui sont d'accord pour y passer du temps bénévolement et 28 qui sont plutôt d'avis qui vont payer la cotisation et qui ne vont pas s'en occuper. C'est comme ça.
Est-ce que vous avez des interlocuteurs politiques en haut lieu, puisqu'on parlait tout à l'heure de décisions politiques qui relèvent de l'État ou qui relèvent de l'international? Est-ce que ce sont des sujets et des propositions alternatives qui sont audibles?
Alors, il y a des morceaux sur lesquels on est entendu, y compris en relativement haut lieu. En particulier, on a très longtemps travaillé sur des sujets comme la neutralité des réseaux, la liberté d'expression sur Internet.
Qui va te faire ?
Les libertés fondamentales autour des réseaux, etc. On est relativement entendu sur ces sujets-là. Sur tout ce qui est aménagement du territoire, déploiement de la fibre optique, couverture des zones blanches, les pouvoirs publics ne nous ont pas identifiés. Du tout. Simplement parce qu'ils ne
savent... Depuis 20 ans ?
Oui, mais parce qu'ils ne savent mesurer qu'en euros. La seule unité dans laquelle ils fassent leurs mesures, c'est en euros. Et nous n'avons pas un chiffre d'affaires en milliards d'euros. Quand on équipe une zone blanche, nous on le fait en investissant 1000 euros, qu'un particulier prête à une association et qui se fera rembourser petit à petit, ou que des associations se prêtent entre elles. On n'a pas été demandé 3 milliards à Bercy, donc Bercy ne nous connaît pas.
Et ça, c'est plutôt confortable pour vous ou c'est plutôt un inconvénient ? De ne pas être connu.
Ça dépend. Quand on veut faire du travail utile sur le terrain, c'est plus confortable parce qu'on n'est pas emmerdé. Quand on veut essayer d'influer en essayant d'expliquer que l'intérêt général n'est pas tout à fait l'intérêt d'Orange ou que telle chose serait plus intelligente que telle autre, on n'est pas entendu. Et donc on voit des décisions idiotes se prendre et puis on ne peut rien faire contre. Et à part expliquer que c'est idiot, mais personne ne nous lit. Et en particulier, les quelques-uns qui nous lisent sont pas dans les bonnes sphères à Bercy, sont pas inspecteurs des finances, sont pas dans les bons cabinets des bons ministres.
Ils sont au mieux à France Culture, quoi.
Oh non, ils vont être dans les cabinets des ministres d'à côté.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richu.
16h49, c'est le cabinet d'à côté qui vous parle. À cette heure-ci, chaque jour, quelqu'un partage un moment marquant. Il s'agit de décrire ces basculements, petits ou grands, qui s'opèrent au contact d'un texte, d'une personne ou d'une œuvre d'art, par exemple. Et justement, aujourd'hui, Lilian Thuram, qui se prête à l'exercice depuis lundi, choisit d'évoquer sa rencontre fulgurante avec une sculpture d'Ousmane Sow.
J'ai su que je faisais quelque chose qui était compréhensible des gens, même du jeune au vieux. Ça, je n'ai jamais douté de cela. Mais la surprise, c'est quand même le nombre. Le nombre des gens qui disposent de la télé, pour la plupart, qui auraient pu voir à la télé les sculptures et qui se déplacent, mais qui se déplaçaient pas seulement, qui n'étaient pas seulement de Paris, mais qui venaient des provinces. Extraordinaire comme réaction. Et la réaction que j'ai eue, je me suis dit, je n'ai pas perdu mon temps quand j'ai vu tout ça. Parce que de faire déplacer une foule comme ça, qui aurait pu, rester chez eux, bien au chaud, c'était fantastique. C'est une réaction, c'est pour ça que je ne veux plus faire d'exposition de cette envergure-là à Paris. Je veux que ça reste dans la mémoire, le Pont des Arts.
J'étais à Paris, je devais avoir 2-3 jours de repos. À l'époque, je crois que je jouais à Parme, je crois, en Italie. Et j'étais à Saint-Germain-des-Prés. Et donc, je décide d'aller me balader un petit peu en bord de Seine. De loin, je vois des statues sur le Pont des Arts, je crois. Et je regarde, je me dis, tiens, c'est très très beau, c'est assez incroyable qu'il y ait ces statues. En plus, il faisait beau et il y avait énormément de monde. Et là, j'arrive devant une statue qui est un guerrier Maasai. Et là, je tombe littéralement amoureux, en fait, de cette statue. Je la regarde, j'ai l'impression qu'elle me regarde. Et il y a quelque chose qui se dégage. Parfois, c'est assez incompréhensible, mais on a l'impression que cette statue est en vie. Qu'il y a quelque chose qui se dégage et qui m'interpelle. C'est pour ça que je dis que tout d'un coup, je suis amoureux. Et je repars en Italie. Et lorsque vous êtes amoureux ou amoureuse, vous vous sentez persécuté par l'autre. C'est-à-dire que toujours, vous avez en esprit cet amour, en fait. Et donc, je dis, mais c'est pas possible. J'ai l'impression qu'il faut absolument que j'arrive à revoir cette statue, à posséder cette statue. Et je me disais, mais attends, sincèrement, c'est pas sérieux quand même. Avoir une statue d'Ousmane Sow à la maison, c'est ridicule. Et donc, je prends contact avec Ousmane Sow. Donc, je lui dis, écoutez, votre statue est magnifique et j'aimerais l'acquérir, en fait, pour mon village. Au départ, c'était pour mon village Hans Bertrand. Et donc, effectivement, j'achète cette statue. J'essaie de convaincre le maire de l'époque que ce serait un très beau cadeau. Lui n'est pas convaincu par l'œuvre d'Ousmane Sow, parce que je crois qu'il ne connaissait pas l'œuvre d'Ousmane Sow. Et pendant très longtemps, cette statue est restée à Coubertin, à la fonderie de Coubertin. Et donc, pendant quelques années, cette statue est restée là, parce qu'en fait, au départ, ce n'est pas du marbre. C'est de la terre, je crois, mélangée. C'est une invention d'Ousmane Sow. Donc, il a transformé en bronze. Et lorsque je suis revenu habiter à Paris, j'ai dû faire un choix, étant donné que je ne pouvais pas laisser la statue où est-ce qu'elle était, étant donné que mon village, le maire ne comprenait toujours pas le bien fondé de ces statues. Et donc aujourd'hui, j'ai cette statue chez moi. Et j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois M. Ousmane Sow. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, parce que dégage en lui une certaine force et une certaine tranquillité. Et c'est ce qui me touche aussi chez la statue. C'est-à-dire, cette statue-là est immense. Il y a quelque chose d'émouvant parce qu'on a l'impression qu'il dit, voilà, moi, je suis pour l'apaisement. C'est un guerrier.
La statue dit ça.
Ouais, je suis pour l'apaisement. Par contre, je saurais me défendre.
J'ai des armes.
Oui, parce qu'il a, il a à la main un bouclier et puis une lance. Et il a un visage très détendu parce qu'il dit, voilà, je suis dans l'apaisement. Nous devons être dans l'apaisement. Mais par contre, on sent que si jamais il doit aller à la guerre, il ira à la guerre. Ça a été une très belle rencontre là aussi. Et encore une fois, cette rencontre a été tellement agréable. Et le personnage de Ousmane Sow me poursuit encore aujourd'hui, je dirais. Parce que, par exemple, j'ai fait il n'y a pas très longtemps une bande dessinée qui s'appelle Notre Histoire. Et il y avait un personnage fictif qui s'appelle Nedo, qui est de la cosmogonie Peul, et qui détient le savoir universel. Et donc, j'ai demandé au dessinateur espagnol de prendre les traits d'Ousmane Sow pour créer ce personnage.
Est-ce que ce qui s'était ouvert entre vous et la statue au moment où vous découvrez le travail d'Ousmane Sow sur le Pont des Arts à Paris, s'est poursuivi pendant ces années? Est-ce que c'est comme ce que vous avez parlé d'une sorte de rencontre amoureuse? Est-ce que c'est comme une rencontre amoureuse? Est-ce que les choses ont changé, se sont déplacées entre vous? Est-ce que ça s'est nourri? Est-ce que vous avez une sorte de relation avec cette statue?
Oui, pour que la statue soit à la maison, déjà, je crois que c'est pas anodin quand même. Et c'est vrai que lorsque je regarde la statue ou lorsque quelqu'un rentre à la maison, je vais tout de suite faire la présentation en disant voilà, c'est le protecteur de la maison. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que dernièrement, il y a un couple qui sonne à la maison et qui me dit « Voilà, excusez-moi, je suis interpellé par ce que je vois par la fenêtre. Est-ce que vous pouvez me montrer la statue ?» Et donc, j'ai été un peu désarçonné. Je me demandais est-ce que c'était une blague et je l'ai laissé rentrer pour voir la statue. Parce que je crois, encore une fois, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une vraie présence qui se dégage. Et beaucoup d'enfants vont tout près de la statue et s'accroche à la statue. Parce que, encore une fois, j'ai l'impression qu'il protège. Bon, il y en a qui ont peur aussi, hein, parce qu'il est très grand. Mais en règle générale, c'est vraiment un apaisement. Et là aussi, même dans la continuité avec l'amitié qui me lie avec Ousmane Sow, dernièrement, j'étais au Sénégal, je l'ai rencontré. Parce qu'encore une fois, je trouve qu'il y a chez lui ce calme.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. Je troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me fut du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Feu rouge dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirais l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine, chargée en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir.
Benjamin Bayard, c'est vous qui avez décidé de terminer avec ce morceau de Ridane, l'agriculteur. Pourquoi ?
Bon, simplement, moi, c'est un texte qui me parle. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que riche avec la leur.
Et si le blé vous rend heureux, vous aussi, vous allez devenir agriculteur ?
Ah, j'y ai pensé quand j'étais jeune. Oui.
Merci beaucoup, Benjamin Bayard, d'avoir été avec nous cet après-midi. Je donne l'adresse ffdn.org. On ne sait jamais si les citoyens étaient plus désireux d'activité.
Pour ceux qu'ils sont, ils sont les très très bienvenus.
Merci beaucoup. Pour entendre les nouvelles vagues sur vos plages sonores secrètes, toute matière utile se trouve sur franceculture.fr à la page des nouvelles vagues. Vous pouvez vous abonner au podcast ou bien trouver un itinéraire bis. J'en ai mis quelques-uns, j'en ai retweeté quelques-uns sur Twitter. Sur les réseaux sociaux, justement, Facebook et Twitter vous partagent les programmes en temps et en heure et vous permettent aussi de nous écrire. Merci à Romain Debeil-de-Lièvre, Inès Duperron et Claire Maillot. Ils pensent et préparent cette émission avec moi, une émission réalisée par Anne-Laure Chanel avec aujourd'hui aux manettes Joël Le Guéhennec. Demain est un jour très nouveau, donc nous aurons la joie de vous retrouver demain à la même heure, dans un instant, le 5 à 7.